Bonjour. Alors, est-ce que c'est allumé? Alors, mon thème aujourd'hui, c'est l'Esprit de l'Éternel. En fait, on va lire un verset qui se trouve dans Ésaïe, chapitre 11, verset 2. Donc, ceux qui ont leur Bible, ils peuvent aller là-bas. Et ceux qui ont leur Bible dans leur téléphone aussi, ce n'est pas grave. Vous pouvez lancer votre application de la Bible et aller dans Ésaïe, chapitre 12, chapitre 11, verset 2. En fait, les versets que je vais lire, c'est dans la version second 21. Donc, mais si vous avez dans d'autres versions, il n'y a pas de problème. Alors, on va tout de suite commencer par la lecture de ce verset. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui l'esprit de sagesse, l'esprit de discernement, l'esprit de conseil et de puissance, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Juste pour une précision, parce que j'ai parlé avec quelqu'un que je ne citerai pas, j'ai dit l'esprit de l'Éternel, la personne m'a dit, c'est l'esprit de l'Éternel ou c'est le Saint-Esprit ou c'est l'esprit de Dieu? Donc, il faut préciser, quand on parle de l'Esprit de l'Éternel, donc c'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est la même chose. Et là, dans le contexte de notre verset d'aujourd'hui, quand on dit que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, donc il s'agit du Messie, il s'agit de Jésus-Christ. Donc, si on peut relire ce verset, ça peut donner, le Saint-Esprit reposera sur Jésus-Christ, l'Esprit de sagesse, de discernement, Esprit de conseil et de puissance, Esprit des connaissances et des craintes de l'Éternel. Alors, comme j'avais dit la dernière fois que j'avais parlé de quand Dieu a appelé Marie, j'avais dit que quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous confie une mission, en fait, il va nous équiper, il va nous couvrir par son Esprit Saint. Parce que Dieu avait donné une mission spéciale à Jésus, une mission de venir mourir à la croix pour nous sauver, pour prendre mes péchés, vos péchés, et pour nous annoncer la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Et pour accomplir sa mission, même lui, il avait besoin que le Saint-Esprit repose sur lui. Donc, si même Jésus-Christ avait besoin que le Saint-Esprit repose sur lui, alors que lui qui était 100% Dieu, 100% homme, nous aussi, nous avons besoin du Saint-Esprit pour accomplir la mission que Dieu nous confie. Alléluia. Et là, Jésus-Christ, il disait, c'est dans Ésaïe chapitre 61, il disait « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, et sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. » Vous connaissez la suite pour ceux qui connaissent ce verset. Donc nous aussi, en fait, quand Dieu nous confie une mission, on peut dire comme Jésus-Christ, « L'Esprit de l'Éternel, le Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour accomplir telle ou telle mission. » Dieu ne va pas nous confier une mission et nous laisser seuls, parce que tout seul, on ne peut pas y arriver. Nous avons besoin de l'Esprit de l'Éternel. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que la Bible dit dans Galates 3, 27, en effet, vous tous qui êtes baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Ça veut dire que cet esprit qui était en Jésus-Christ, qui a permis d'accomplir sa mission, tous ceux qui sont baptisés en Christ, la Bible dit que nous sommes revêtus de Christ. Ça veut dire que tout ce qui était en Christ, et en nous aussi. Cet esprit qui était en Christ, il est en nous aussi. Si nous avons été baptisés en Christ, dans d'autres versions, ils disent que nous avons revêtu de Christ, ça veut dire que nous avons pris toutes ces caractéristiques, toutes ces valeurs. Ça, c'est une vérité. Et la Bible dit aussi que, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous. Ça, c'est des vérités. Nous sommes le temple de Dieu et cet esprit qui était en Christ habite en nous. Ça, c'est la vérité, ce que la Bible dit. Mais la question qu'on se pose, que moi je me pose, c'est si le même esprit qui était en Christ repose en moi, est-ce que je vois cette manifestation dans ma vie de tous les jours? Est-ce que dans ma vie, dans ma communion avec Dieu, est-ce que je vois la manifestation de cet esprit de Dieu? Est-ce que dans ma famille, je vois cette manifestation? Est-ce que dans notre église, est-ce que nous voyons la manifestation de l'Esprit de Dieu? Parce que la Bible nous dit que si nous sommes baptisés, nous sommes revêtus de Christ, ça veut dire que nous avons cet Esprit qui était en Christ. Alors, La question, est-ce qu'on voit vraiment cet esprit se manifester? Ce n'est pas question qu'on n'a pas réussi parce que si on est vraiment en Christ, on a ça en nous, mais pourquoi ça ne se manifeste pas? Ou si ça se manifeste peu, pourquoi? Parce que c'est censé se manifester. On va voir à travers du verset qu'on a lu, dans la vie de Jésus-Christ, comment il a pu manifester la sagesse, le discernement, la puissance, la connaissance et la crainte de l'Éternel. Et on va prier ensemble ce matin. Parce que moi, quand je dis ça, ça me challenge en fait. Je dis, voilà ce que la Bible dit, ça c'est la vérité, voilà ma vie. Pourquoi est-ce que ma vie aujourd'hui n'est pas conforme à ce que la Bible dit? Et ce matin, vraiment, je vais vous inviter, on va prier ensemble en fait. Chacun connaît là où il a vraiment plus besoin de Dieu, là où il a besoin que l'Esprit de Dieu, qu'il a réussi, se manifeste. Donc ce matin, vraiment, on va prier ensemble parce que la Bible dit que si deux ou trois personnes s'accordent pour demander quelque chose, ça nous sera accordé. Donc, à la fin de mon message, je vais faire un appel. S'il y a des gens qui ont... Moi, je sais que j'ai besoin vraiment que Dieu vienne m'aider dans certains domaines de ma vie par rapport au discernement, à la sagesse. Donc, vraiment, que si on se met d'accord, on se met ensemble pour prier ce matin, je pense que Dieu peut faire à ce que cet esprit qu'il a mis en nous puisse se manifester. Donc, on va commencer par voir dans la Bible, dans la vie de Jésus-Christ, comment il a manifesté la connaissance de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu et la connaissance de la volonté de Dieu. Parce que je pense que la connaissance de Dieu, c'est la base des autres points qu'on va avoir. Parce que si on connaît Dieu, si on sait qui est Dieu, on aura la crainte de l'Éternel. Si on connaît la parole de Dieu, on pourra discerner quand on va recevoir une parole ou une prophétie. Si elle n'est pas conforme à la parole de Dieu, on pourra avoir des discernements. Et si on ne connaît pas la parole de Dieu, ça peut être compliqué d'avoir ce discernement. Amen. On va commencer par la connaissance de Dieu. On va dire ce que Jésus disait par rapport à la connaissance de Dieu. On va lire dans Matthieu 11, verset 27. La connaissance de Dieu. Mon Père m'a tout donné. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Ça veut dire que Jésus connaissait son Père intimement. Jésus disait, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai vu faire mon Père. Donc, il connaissait parfaitement Dieu. Et la Bible dit que personne ne connaît Dieu si c'est le Fils et à qui le Fils veut le révéler. Donc, ça veut dire que si on veut connaître Dieu, on ne peut pas connaître Dieu en dehors de Jésus-Christ, parce que c'est la vérité, les chemins, la vérité et la vie. Donc, si on veut connaître Dieu, si on veut avancer dans notre intimité avec Dieu, on doit passer du temps dans la prière, on doit passer du temps en train de lire les Écritures sur Jésus-Christ. Parce que si on veut connaître Dieu en passant par d'autres moyens, on ne va pas le connaître. Parce que même lui-même, il a dit que si tu veux le connaître, c'est lui-même qui peut te le révéler. Amen. Donc, si on veut vraiment avancer dans notre vie, si on veut, parce que c'est la connaissance de Dieu qui va amener les autres manifestations de l'Esprit. C'est la connaissance de Dieu, de qui il est, de quoi, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qui va faire en sorte qu'on aura la crainte de son nom, qui va faire en sorte que si on veut connaître qui il est, on va agir en fait avec courage, on va voir plus loin que quand on connaît Dieu, quand on sait qui il est, on va agir avec courage parce qu'on sait qui il est. Mais si on ne le connaît pas, on va vivre une vie qui n'a pas de puissance, une vie qui n'a pas de saveur. Alléluia. Donc, il y a la connaissance de Dieu. Après la connaissance de Dieu, on a aussi la connaissance de la volonté de Dieu. On voit Jésus aussi, il disait à ses disciples, c'est dans un contexte où ses disciples s'inquiétaient parce que pensaient qu'ils n'avaient pas pris la nourriture. Et Jésus dit dans Jean 4, chapitre 4, verset 35, Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jésus-Christ connaissait la volonté de Dieu. Il savait pourquoi il était là. Et comme on a vu que l'Esprit de Dieu repose sur nous, le même esprit qui était sur Christ dépose repose sur nous. Nous aussi, en fait, on doit pouvoir dire comme Jésus-Christ, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Mais pour faire ça, il va falloir connaître sa volonté. Et si on veut connaître sa volonté aussi, on doit passer par la lecture de la parole de Dieu. En fait, il y a un pasteur qui disait que quand on veut grandir, ce n'est pas quelque chose qui va venir naturellement. Quand on va grandir dans le Seigneur, ça ne va pas venir naturellement comme un enfant qui grandit naturellement, en fait. Ce n'est pas genre, j'ai donné ma vie à Christ et avec l'âge, le temps, je vais grandir. Non, quand on veut grandir avec Dieu, il faut du travail, en fait. Il faut consacrer du temps. Il faut prendre du temps pour pouvoir prier, pour passer le temps dans la parole de Dieu, pour grandir. Ça ne va pas venir automatiquement. Même si on vient tous les dimanches à l'église, même si on assiste aux réunions de prière, ce n'est pas suffisant. Il faut un travail personnel. Amen. Et Jésus, donc, il avait la connaissance de Dieu, il avait la connaissance de la volonté de Dieu et il avait aussi la connaissance de la parole de Dieu. Là, on voit aussi dans Luc 4, verset 4, Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Là, on voit aussi quand Jésus-Christ a été tenté, le diable l'a tenté avec la parole, mais lui, il connaissait parfaitement la parole de Dieu et il a pu répondre. Maintenant, s'il ne connaissait pas la parole de Dieu, ce que l'ennemi lui disait, ça ressemblait à peu près à ce qui était écrit, mais le diable a un peu tordit la parole. Mais comme Jésus-Christ connaissait la parole, il a pu résister aux tentations de l'ennemi. Et on voit aussi, quand il parlait avec les pharisiens, il leur disait, il est écrit dans votre loi, il a été dit ça, mais moi je vous dis ça. Donc, il connaissait la parole de Dieu. Donc, nous aussi, face aux tentations, ou face, aujourd'hui on entend ce qu'on appelle les faux prophètes, où il y a beaucoup, beaucoup de doctrines. Donc, si on veut pouvoir discerner ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu, il va falloir connaître la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, je me répète, pour la connaître, il faut prendre du temps. Il faut ajuster son emploi du temps. Parce qu'on voit que Jésus-Christ, dans son emploi du temps surchargé, il prenait tout le temps le temps de s'isoler, aller à la montagne pour prier. Si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, avait besoin tous les jours, tous les matins ou tous les soirs, de s'isoler, prendre ce temps même pour prier, pour connaître, pour rester à jour dans ce que Dieu voulait qu'il fasse, nous aussi, on a besoin de faire ça. C'est vrai qu'on est aujourd'hui très équipé, très occupé, on a plein de choses à faire. Mais quand on voit la vie de Jésus, il était très, très occupé aussi. Mais à un moment donné de sa vie, il s'est retiré pour aller prier, pour aller se ressourcer. Amen. Donc, c'est vraiment quand on a la connaissance de Dieu, quand on sait qui il est, il va nous révéler aussi qui nous sommes. Il va nous révéler sa volonté. Et plus on passe du temps dans sa parole, il va nous révéler aussi tout ce qu'il a pour nous, en fait, tout ce qu'il a en réserve pour nous. Et ça, ça va créer la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le respect profond qu'on a pour Dieu. C'est une révérence qu'on a pour Dieu. Si on ne connaît pas Dieu, ça va être difficile, en fait, d'avoir un respect profond. Si on ne connaît pas Dieu, ça va être difficile vraiment de se soumettre à sa volonté, de soumettre notre volonté à sa parole. Quand on lit le verset 3 du chapitre 11 d'Ésaïe, j'aime beaucoup ce qui est dit sur Jésus-Christ. Là, je l'ai affiché dans trois versions. Il y a une version où on dit « Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel ». Et dans une autre version, ils disent « Il respirera la crainte de l'Éternel ». Et une autre version dit « Il prendra plaisir à respecter le Seigneur ». Amen. Donc là, je me dis aussi, si l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est en Jésus-Christ est sur nous, et que Jésus-Christ respirait l'Éternel, il prenait plaisir à respecter le Seigneur, ça veut dire que nous aussi, on est capables. Parce que si on est revêtu de Christ, on peut aussi prendre du plaisir à respecter le Seigneur. On peut respirer la crainte de l'Éternel. Quand les gens te voient dans ta famille, dans ton foyer, ils sentent que ce frère-là, vraiment, il craint l'Éternel. Ce frère-là, je ne peux pas lui approcher pour lui proposer les fraudes. Ce frère-là, non, je ne peux pas, je ne peux pas. Je me souviens, un jour, on voulait aller acheter une voiture. On arrive, on a essayé la voiture. Sauf qu'il y avait un problème sur le pare-brise. Et le vendeur nous a dit, vous savez, ça, c'est pas grave, vous pouvez l'acheter, vous roulez, après, vous appelez votre assureur pour dire que c'est un accident, comme ça, il va payer. Après, il a dit, non, nous, on ne fait pas ça. Donc, quand vous respirez à la canne d'artère, même les gens, il y a des choses qu'ils ne vont pas vous proposer. Surtout pour les jeunes, quand vous commencez à respirer la crainte d'éternel, il y a certaines soirées, vos camarades ne vont pas vous inviter parce qu'ils savent que vous n'êtes pas dans ça. Dans vos discussions entre vos collègues à midi, il y a des discussions qui vont s'arrêter. Ils vont commencer à dire non, il est là, on ne va pas parler de ça. Moi, j'ai expérimenté ça dans mon travail. Des fois, on prenait les pauses, vous savez comment ça se passe, pause café, les gens vont commencer à parler des choses, des blagues. Mais des fois, avant, quand ils commençaient à dire ça, je partais. À un moment donné, ils ont vu que des fois ça m'est dérangé. Ils ont commencé à dire, ah, Fabrice est là, on ne va pas parler de ça ou de ça. Donc c'est un témoignage aussi quand vous respirez dans votre façon de vivre, dans votre façon d'être, votre entourage va dire, non, on ne va pas faire ça avec lui. Parce que lui, il est fidèle à son Dieu. Il a soumis sa volonté à son Dieu. Amen. Donc vraiment que chacun d'entre nous puisse respirer la crainte de l'Éternel. Si nous sommes revêtus de Christ, c'est possible. Amen. La crainte de l'Éternel, c'est le respect profond, la révérence de Dieu. Craindre Dieu, c'est le respecter, lui obéir et se soumettre à sa volonté. C'est soumettre à sa volonté, lui obéir. Un exemple que j'aime beaucoup dans la Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est une source de vie pour nous détourner des pièges de la mort. Quand on craint Dieu, on va se détourner de beaucoup, beaucoup de pièges, en fait. Il y a beaucoup de pièges, on va le voir un peu plus tard. C'est que l'ennemi de nos âmes, comme la Bible l'appelle, il aime bien nous mettre des pièges. Il va nous piéger. J'aime bien un verset dans la Bible qui dit, il sait qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps. Et du coup, il va essayer de faire des dégâts. Et nous, des fois, on oublie en fait ce qu'il nous reste, ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc l'ennemi va essayer de nous piéger. Chaque fois qu'on ouvre une petite porte, il va essayer. Mais la crainte de l'Éternel, c'est une source de vie pour nous détourner des pièges de la mort. Amen. Un exemple que j'aime beaucoup, c'est Joseph. Beaucoup connaissent l'histoire de Joseph. Vous pouvez lire à Genèse 39, toute l'histoire. C'est quand la femme de son Potiphar voulait qu'il couche avec lui, mais lui, il a refusé. Et dans le verset 9, c'est écrit, comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et péché contre Dieu. Joseph, il avait la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est qu'est-ce que tu vas faire quand tu es seul et tu sais qu'il n'y a personne d'autre est là. Quand tu crains Dieu, c'est ce que tu fais là quand tu penses que personne d'autre te voit. Est-ce que tu es fidèle à Dieu? Même si tu sais que personne d'autre verra ce que tu as fait, est-ce que tu es fidèle à ton Dieu? Joseph savait que ça pouvait lui coûter cher, en fait, mais il était ferme, il était décidé à ne pas pécher contre son Dieu, parce qu'il avait la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel, ça vient de la connaissance qu'on a de Dieu. Si on ne connaît pas Dieu, on ne va pas le craindre. Mais si on connaît Dieu, qu'il est saint, qui nous aime, qui veut notre bien, qui nous protège, qui veille sur nous, on va avoir la crainte, le respect, on va se soumettre à sa volonté, peu importe les tentations. Parce qu'aujourd'hui, on peut être tenté par beaucoup de choses. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 17, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que des fois, quand on décide d'obéir à Dieu, de lui soumettre à notre volonté, quand on décide de ne pas tricher, de ne pas frauder, de ne pas s'égarer à la place des handicapés, de faire plein de trucs, ça veut dire que ça va nous coûter quelque chose. Peut-être on va marcher plus longtemps, on va marcher sous la pluie parce qu'on a décidé de dire cette place n'est pas pour moi, je vais m'égarer ailleurs. Joseph, pour lui, il a refusé de pécher et ça lui a amené en prison. Sauf que la Bible nous dit que même quand il était en prison, la grâce de Dieu était avec lui. Amen. Quand on décide d'obéir à Dieu, peu importe là où ça va t'amener, Dieu sera avec toi. Et quand on regarde l'histoire de Joseph, on sait que c'est en prison qu'il a commencé à interpréter les rêves et c'est après qu'il a pu devenir ministre des pharaons. Donc si tu respectes Dieu, si tu te soumets à sa volonté, tu y obéis, peu importe les afflictions du moment, ce n'est rien comparé à la gloire qui te sera donnée plus tard. Amen. Donc peu importe ce qu'on nous propose aujourd'hui, restons fidèles. obéissons à Dieu, car il est fidèle. Il est fidèle. Quand tu es fidèle envers Dieu, il va être fidèle envers toi. Même si pour le moment, tu peux souffrir, dans 1 Pierre, je pense que Pierre dit aussi que c'est une grâce pour Dieu si on souffre parce qu'on a bien agi. Mais si on souffre parce qu'on a mal agi, là, ce n'est pas une grâce. Donc vraiment, il faut qu'on garde vraiment le respect, la crainte de l'Éternel dans nos foyers, dans nos familles, au travail. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui trichent facilement dans tout ce qui est les déclarations, les assurances, tout. Il y a des gens, même des chrétiens, qui vont oublier en fait, qui vont faire comme tout le monde. Tout le monde fait ça. Tout le monde triche. Moi aussi, je peux tricher. Mais la crainte de l'Éternel, c'est lui obéir et lui soumettre, nous soumettre à sa volonté. Amen. On va continuer. La sagesse. La Bible dit, vous connaissez tous, vous connaissez le verset qui est le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. J'aime bien le verset, dans, le verset 8 à 9 dans Job chapitre 32. La Bible dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne la capacité de comprendre. Ce n'est pas le grand nombre d'années qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui permet de discerner ce qui est juste. C'est l'Esprit de l'Éternel qui donne la sagesse. C'est l'Esprit de l'Éternel qui permet de comprendre les choses. C'est l'Esprit de l'Éternel qui nous donne l'intelligence. Là, on voit dans la vie de Jésus-Christ, il était très sage. On voit que quand il enseignait, les gens étaient étonnés. Les gens se posaient des questions. Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire? Donc si nous avons revêtu Christ et que Christ il avait cette sagesse, ça veut dire que nous aussi, on a cette sagesse en nous. On va prier pour que cette sagesse que Dieu nous a donnée puisse se manifester dans nos vies de tous les jours. Si on est en Christ, on a cette sagesse en nous. On va prier pour que vraiment cette sagesse qui était en Christ, cette sagesse pour pouvoir comprendre des choses, puisse se manifester. Nous avons besoin de ça aujourd'hui dans nos vies, dans nos familles, dans notre Église. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui ont cet esprit de l'Éternel qui leur permettent de comprendre les choses. On voit Jésus, il était face aux docteurs de la loi, aux pharisiens. La Bible les appelle aussi des spécialistes de la loi. Mais quand on regarde bien, c'est qu'ils connaissaient la loi, mais c'était intellectuel. C'est des choses qu'ils avaient apprises. Ce n'était pas l'Esprit de l'Éternel qui avait révélé ce qu'ils connaissaient. Du coup, quand ils discutaient avec Jésus, en fait, Jésus était tellement sage qu'ils n'arrivaient pas à le suivre, en fait. Jésus connaissait bien Dieu, il comprenait beaucoup, beaucoup de choses que même les spécialistes de la loi, du coup, ils ont commencé à lui tendre des pièges, en fait. Ils ont commencé à lui tendre des pièges pour pouvoir les livrer au gouverneur parce qu'il leur dérangeait. Par l'esprit qu'il avait, la façon dont il comprenait les choses, dérangeait les spécialistes, les docteurs de la loi. Parce qu'on a vu que ce n'est pas la vieillesse qui procure la sagesse, ce n'est pas le nombre d'années qui procure ça, ce n'est pas les études, les sciences et tout. Si on veut comprendre les choses d'une façon profonde, c'est l'esprit de l'Éternel. Et là, on va voir dans des exemples comment les pharisiens, quand ils ont vu que Jésus-Christ il était tellement sage, comprenait beaucoup de choses, ils ont commencé à lui tendre des pièges. C'est ce que fait l'ennemi dans nos vies. Et Satan, notre ennemi, il va nous tendre des pièges pour après, si on tombe, il va aller nous accuser auprès de Dieu. Parce que la Bible l'appelle aussi notre accusateur. Il nous tend des pièges, si on tombe, après, il va nous accuser. Mais on va voir que dans la vie de Jésus-Christ, avec la sagesse qu'il avait, ils n'ont pas réussi. Enfin, ils lui ont tendu des pièges, mais il a réussi à ne pas tomber dans leurs pièges. Il y a deux exemples qu'on voit dans la Bible, c'est avec la femme adultère et l'autre, c'est à propos de payer les impôts. Je vous invite à lire ces chapitres chez vous, Jean chapitre 8 et Luc chapitre 20. Avec la femme adultère, la Bible dit qu'ils ont pris une femme en train de commettre l'adultère et ils l'ont amenée à Jésus. Et comme Robert aime le dire, ils ont amené seulement la femme alors que l'homme aussi... Donc, on voit aussi que leur loi n'était pas très, très correcte. Donc, ils ont amené la femme devant Jésus. Ils ont dit, voilà ce que dit la loi. Est-ce qu'on doit la lapider ou pas? Là, ils ont tendu un piège pour voir comment il allait agir. Alors, là, Jésus, il a dit, vous connaissez beaucoup, il a dit, que celui qui n'a pas péché lui lance la première pierre. Et là, ils sont tous partis. Et il a dit à la femme, ils ne t'ont pas jugé, moi aussi je ne te juge pas. Vas-y, mais ne pêche plus. Donc, on voit aussi la sagesse de Jésus-Christ dans la façon dont il gérait les affaires. Là, on lui a tendu un piège, mais avec sa sagesse, il n'est pas tombé dans le piège. On voit la même chose aussi pour payer les impôts. Ils sont venus le voir, ils ont dit, est-ce qu'on doit payer les impôts? Tout ça, c'était vraiment pour le piéger. Il a dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et là, j'aime bien ce qui se passe après. Quelques spécialistes de la loi prirent la parole et dirent, Maître, tu as bien parlé. Et ils n'osaient plus lui poser aucune question. Amen. Là, quand l'ennemi va venir nous piéger. Des fois, on tombe facilement dans les pièges de l'ennemi parce qu'il connaît, il nous connaît en fait. Il connaît nos faiblesses, il connaît nos penchants, il connaît là où on était avant de venir à Christ. L'ennemi ne l'a pas oublié. Donc, il va essayer de nous faire tomber dans les pièges. Si c'était peut-être l'alcool ou peu importe ce qui nous faisait tomber, l'ennemi va essayer de nous faire tomber encore. Mais je prie vraiment que ce matin, nous puissions avoir cette sagesse de Jésus-Christ pour que l'ennemi, un jour, il dise, franchement, je te laisse tranquille. Je te laisse tranquille, je vais essayer de voir de l'autre côté. Que vraiment nous puissions avoir cette sagesse. Parce que l'ennemi ne va pas arrêter de nous faire, de nous amener des pièges. Et si on tombe, il va nous accuser. Mais même si on tombe, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Si on confesse nos péchés, il est bon et capable de nous les pardonner. Donc il ne faut pas que si on tombe dans les pièges, on reste par terre, on dit ah, ça recommence. Non. Sept fois par jour, les justes tombent et sept fois par jour, Dieu les relève. Amen. Donc même si on est tombé dans le piège de l'ennemi, il ne faut pas se dire là, c'est fini pour moi. Non, Dieu est bon et capable de nous relever et de nous donner la capacité de ne plus tomber encore dans le même piège de l'ennemi. Amen. Donc vraiment qu'on puisse prier ce matin, que Dieu nous donne cette sagesse, qu'on ne tombe pas toujours dans les pièges de l'ennemi parce que lui, il est là. La Bible dit qu'il rôde comme un lion cherche à qui dévorer. Et dès qu'on lui ouvre une petite porte, il va entrer. Donc soyons sages, vraiment prions. La Bible dit que celui qui manque de la sagesse la demande à Dieu et lui, ça lui sera accordé. Donc ce matin, on va prier aussi pour la sagesse parce qu'on a vraiment besoin de ça dans nos foyers. Avec tout ce qui se passe à l'extérieur, nous avons vraiment besoin d'avoir la sagesse, pas la sagesse du monde, mais la sagesse qui vient de Dieu. Amen. Notre personnage que j'aime beaucoup, qui avait vraiment la sagesse, c'est Daniel. La Bible dit que Daniel, il avait un esprit supérieur ou un esprit extraordinaire. Et je pense que c'est le même esprit que nous avons aussi. Et nous pouvons vraiment manifester aussi cet esprit. La Bible dit que dans Daniel chapitre 5, verset 12, en effet, on a trouvé chez Daniel, appelé Belshazzar par le roi, un esprit supérieur de la connaissance et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les rêves, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc convoqué et il révélera l'explication. Là, tous les sages du roi, ils n'arrivaient plus à expliquer en fait les rêves du roi. Mais comme Dieu avait donné à Daniel cette connaissance supérieure, Daniel a pu expliquer au roi ce qui se passait. Daniel se montrait supérieur aux autres responsables et aux administrateurs parce qu'il avait en lui un esprit extraordinaire. Le roi pensait à lui confier la responsabilité de tout le royaume. Amen. Quand on est enfant de Dieu, je crois que vraiment nous avons aussi cet esprit extraordinaire en nous en fait. Que ce soit au travail, que ce soit peu importe là où chacun travaille, que ce soit le ménage, que ce soit à l'école, que ce soit en informatique, que ce soit dans le social, on doit être exemplaire en fait. On doit, dans ce qu'on fait, peu importe si c'est pour le ménage, tu dois nettoyer tellement bien que les gens vont voir que tu es un esprit extraordinaire. Si c'est pour le social, tu dois aider tes enfants que les autres vont dire waouh, il a quelque chose. Parce que l'esprit de Dieu repose sur nous. Amen. Et là, la même chose se répète sur Daniel. On a vu qu'avec Jésus, les pharisiens, ils ont essayé de le piéger pour le faire tomber dans le piège. Et là, la même chose se produit dans la vie de Daniel. La Bible dit que les responsables et les administrateurs cherchèrent alors une occasion d'accuser Daniel en rapport avec les affaires du royaume. Cependant, ils ne purent trouver, ah j'aime bien ce verset, ils ne purent trouver aucune occasion de le faire, aucune faute de sa part, parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence, ni faute. Amen. On ne trouvait chez lui ni négligence, ni faute. Moi, quand je lis ça, je dis, waouh. Je dis, moi, si dans mon travail, ils essaient de trouver une faute, ça ne va pas prendre 10 minutes. Parce que ça m'arrive de temps en temps d'être en retard. Ça m'arrive que je reçois des lettres, des mails de relance parce qu'il y a des actions que je n'ai pas faites à temps. Genre, première relance, deuxième relance, et troisième relance, j'arrive quand même à faire ce que je suis censé faire. Donc aujourd'hui, si moi, ils vont chercher, ils ne vont pas chercher loin parce qu'on a tous la négligence, enfin, pas tous, je pense qu'il y a certains qui sont comme Daniel ici. Donc il y a. Il y a certains comme moi qui ont des fois un peu de négligence et des fautes dans leur travail. Mais quand je vois la vie de Daniel, je dis que c'est possible en fait. Si Daniel avait cet esprit extraordinaire, et nous, en fait, quand je disais ça, je me suis dit, on voit des exemples dans la Bible. À un moment donné, Dieu donnait soit un esprit de sagesse à une telle personne, et à un autre moment, il donnait soit un esprit de prophétie. Mais Christ, il avait. Toute manifestation de l'Esprit était en Christ. Et nous, si on est revêtus de Christ, ça veut dire qu'on a toute manifestation de l'Esprit en nous, en fait. Ce n'est pas seulement l'Esprit de sagesse que nous avons. Nous avons l'Esprit de puissance, de crainte de l'Éternel. Tout ce qui est en Jésus-Christ est en nous. Donc, si Daniel, lui qui avait reçu cet Esprit, et nous qu'on a reçu, on est revêtus de Christ, je pense que c'est possible de vivre une vie, que ce soit au travail ou à l'église ou dans nos familles, qu'on trouve chez nous ni négligence ni faute. Je pense que c'est possible. Si c'était possible pour Daniel, ça peut être possible pour nous. Amen. Donc on voit que Daniel, c'est un homme vraiment extraordinaire parce qu'il avait l'Esprit de Dieu en lui. Et nous aussi, on peut arriver à ce point où les gens vont essayer de fouiller, chercher des choses pour nous accuser. Ils ne vont rien trouver. Ça, c'est l'ennemi, c'est ce qu'il fait dans nos vies en fait. Il va essayer de fouiller dans le passé, il va essayer de fouiller partout pour essayer de nous accuser, de nous faire tomber. Mais j'ai prié vraiment que ce matin, l'ennemi ne trouve rien en fait. Qu'on puisse laisser tout au pied de la croix et dire à Seigneur, viens vraiment, prends tout, renouvelle-moi, transforme-moi. La Bible dit que nous soyons renouvelés, transformés par le renouvellement de notre intelligence. Que vraiment ce matin, l'Esprit de Dieu vient nous transformer, de nous renouveler. J'aime bien le verset qui dit « Quand Jésus-Christ viendra, il viendra chercher une épouse sans tache ni ride, une épouse parfaite. » Donc, prions vraiment ce matin que l'Esprit de Dieu vienne nous changer, nous transformer. En réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne la capacité de comprendre. Ce n'est pas les grands nombres d'années qui procurent la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui permet de discerner ce qui est juste. L'Esprit de Dieu aussi va nous permettre de le discernement. Amen. Le discernement. Dans la Bible, on parle, dans le Nouveau Testament, il y a Paul qui parle des dons de discernement. Et là, moi, j'ai identifié trois types de discernement. C'est ce qu'on appelle le discernement des temps et des circonstances. On va lire ça dans 1 Chronique, chapitre 12. Verset 33. En fait, si on lit seulement ce passage, il ne va pas nous parler beaucoup, mais il faut voir ce passage dans le contexte. Là, on dit, de la tribu d'Issachar, 200 chefs vinrent avec les hommes de leur tribu qui étaient sur leur ordre. C'étaient des gens qui savaient discerner comment Israël devait agir en fonction des circonstances. D'autres versions, ils disent, ils étaient capables de discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. Une autre version, ils disent, des hommes sachant tous discerner quand et comment les Israélites devaient agir. Cette tribu d'Israël, Dieu leur avait donné cette capacité de discerner les temps et les circonstances. Quand on voit le contexte de ce verset, c'est que David allait devenir roi. Du coup, les tribus d'Israël, chaque tribu a envoyé des hommes pour rejoindre David. Et là, on voit des tribus, beaucoup c'était des guerriers redoutables. Quand je dis ça, il y a une tribu, je pense que ça doit être Dan ou Gad, je ne me souviens pas. Il disait que c'était des hommes aussi terribles que des lions, aussi rapides que des gazelles sur la montagne. Donc vraiment, on voit une liste des guerriers, des combattants, des hommes forts. Et au milieu de ça, il y a des hommes capables de discerner les temps et les circonstances. Là, je me suis dit, si David, il allait former son armée, il n'avait pas besoin seulement des compétences techniques. Il n'avait pas besoin seulement des hommes de guerre, mais il avait besoin aussi des hommes qui pouvaient lui dire, lui discerner les temps et les circonstances pour savoir quand est-ce qu'il fallait agir et comment il fallait agir. Ce n'est pas seulement nécessaire d'avoir des compétences techniques, très techniques dans tel domaine, mais il faut savoir aussi discerner quand et comment il faut utiliser ses compétences. Amen. Peut-être que Dieu vous a donné des dons, mais Dieu aussi, il vous donne un don de discerner quand et comment il faut utiliser ses compétences. On voit beaucoup de gens, peut-être que Dieu avait appelé, mais ils n'ont pas discerné les temps. Et peut-être qu'ils ont agi peut-être trop tôt, trop tard. Donc ça, c'est vraiment un esprit de discernement des temps, des circonstances. C'est très important. Nous avons besoin de ça aussi dans notre Église. En ce moment, avec tout ce qui se passe, nous avons besoin des hommes et des femmes capables de discerner quand et comment agir. Parce que si on agit n'importe comment, n'importe quand, on n'aura pas les résultats que Dieu voulait. On voit beaucoup dans l'histoire d'Israël, il y a beaucoup de fois, les gens, ils voulaient faire la guerre, ils allaient voir Dieu, ils disaient, est-ce qu'on doit faire cette guerre ou pas? Dieu disait, soit, allez-y, je suis avec vous, ou Dieu disait, non, ne faites pas cette guerre. Donc, c'est vraiment un esprit de discernement des temps et des circonstances. Dans telle circonstance on est, dans quel temps on est, qu'est-ce qu'il faut faire dans tel ou tel moment? Ça, c'est l'esprit des temps et des circonstances. Et nous avons vraiment tous besoin de ça. Nous avons besoin de ça dans notre Église. Avec tout ce qui se passe, nous avons besoin des hommes et des femmes capables de dire, voilà ce que Dieu dit. Dans ces moments-là, il faut faire ça. Dans ces moments-là, il ne faut pas faire ça. Dans ces circonstances, voici ce qu'il faut faire. Donc David, il avait besoin de ces hommes-là. Et nous avons besoin, en fait, de ces hommes et femmes dans notre Église. Amen. Et là, ce que j'ai appelé le discernement de la bonne part, ou du plus important. Vous connaissez l'histoire de Marie et Marthe. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à lire. Vous pouvez noter, vous allez lire. Je pense que je vous donne beaucoup de devoirs à la maison. Donc, vous pouvez lire Luc, chapitre 10. Vous pouvez lire tous les chapitres. Donc, vous allez voir. C'est l'histoire de Marie et Marthe. C'est Jésus. Il entre chez Marie et Marthe. Et il y a Marthe qui commence à préparer à manger, à faire beaucoup d'activités. Et il y a Marie qui s'assoit à côté de Jésus pour écouter la parole. Et là, ça agace un peu Marthe. Il va voir Jésus. Il dit, mais Jésus, ça ne te fait rien que ma sœur ne vienne pas m'aider? Et là, la réponse de Jésus est très édifiante. Jésus lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas enlevée. Amen. Là, Jésus-Christ n'a pas dit à Marthe que ce qu'elle faisait était mauvais, était mal. Mais des fois, on est amené dans ce genre de situation. On a beaucoup de choses à faire. Jésus-Christ, là, nous apprend quelque chose d'important, qu'il faut savoir choisir, discerner quelle est la bonne part. Aujourd'hui, on a plein de choses à faire. On a plein de casquettes. Par exemple, si je donne un exemple, je peux être papa, je peux être mari, je peux être frère, je peux être collègue. Donc, dans toutes ces choses, quelle est la bonne part à un moment donné? Ça ne veut pas dire que les autres choses, c'est mauvais. Mais Jésus nous apprend qu'à un moment donné, il faut savoir choisir quelle est la bonne part. Amen. J'avais regardé un jour sur MCTV, ils avaient posé la question, genre, qu'est-ce qu'il faut faire entre quand les enfants ont besoin de toi ou quand ta femme a besoin de toi? Comment discerner? Et le pasteur avait dit, il faut choisir la bonne part. Et la bonne part, il disait, il faut voir qu'est-ce qui va rester beaucoup plus longtemps. Qu'est-ce qui a une portée éternelle, en fait? Du coup, il disait par rapport aux enfants et à la femme, qui est le plus important, en tout cas pour les hommes, c'était leur femme et les enfants en second. Parce que la femme va rester beaucoup plus longtemps que les enfants. Donc, si vous ne discernez pas la bonne part, vous allez passer plus de temps avec vos enfants. Et au bout de 18 ans, ils vont partir. Vous allez rester avec une inconnue. Donc, il faut choisir la bonne part. Il faut prier pour que Dieu vous donne le discernement de la bonne part. Amen. Mais quand on dit la bonne part, ça ne veut pas dire qu'il faut négliger l'autre part. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez plusieurs choses à faire. Vous avez le discernement de dire ça, ces moments-là, ça, c'est la bonne part. Amen. Et on voit aussi dans la vie de Jésus. Jésus, quand on regarde Luc chapitre 4, je vous invite encore à noter ça, à lire chez vous. Jésus, je vais lire ça, je vais le contexte, je vais vous expliquer un peu le contexte. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour ça que j'ai été envoyé. Quand on lit ce qui s'est passé avant, c'est que Jésus avait passé toute la nuit en train de guérir beaucoup de maladies. Il y avait beaucoup de maladies. Jésus a guéri tout le monde. Et le matin, il est parti prier. Et après, les disciples, ils sont venus le voir. Ils ont dit, Seigneur, les gens, ils ont encore besoin de toi. Ils ont besoin que tu viennes leur guérir. Donc Jésus, là, s'est trouvé face à deux choix. Soit il allait guérir les gens, ou il allait continuer sa mission. Mais pour Jésus, à ce moment-là, la bonne part, c'était d'aller annoncer la bonne nouvelle du royaume, parce que c'était pour ça qu'il avait été envoyé. Donc nous aussi, on est face au choix qu'on doit faire. Des fois, on a beaucoup de bonnes choses à faire, des choses vraiment qui vont aider les autres. Mais là, on voit que Jésus-Christ, face à ce besoin-là, il savait qu'à cet instant-là, ce n'était pas aller guérir les gens qui étaient prioritaires pour lui. Sa bonne part, c'était d'aller annoncer la bonne nouvelle, parce que c'est pour ça qu'il était envoyé. Donc, si on veut pouvoir discerner quelle est la bonne part à un moment donné, donc il faut qu'on arrive à connaître quelle est la volonté de Dieu pour moi. Qu'est-ce que Dieu m'a envoyé faire? Qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire? Quel est mon appel? Quand on connaît son appel, quand on sait ce que Dieu veut qu'on fasse, ça va être pour nous facile de discerner quelle est la bonne part. Amen. Il y a aussi le discernement des esprits. Quand on dit discernement des esprits, il ne faut pas voir les esprits dans tout le monde. C'est Pierre qui disait qu'il faut éprouver les esprits pour savoir si telle ou telle prophétie vient de Dieu. Ici, quand je parle de discernement des esprits, c'est par rapport à un moment donné, quelqu'un te donne un conseil, une prophétie, et tu arrives à discerner que tel conseil ou telle prophétie vient de Dieu ou non. Il ne s'agit pas d'aller avoir peur des gens. Oui, non, ce n'est pas ça. C'est vraiment, à un moment donné, les gens, même les plus proches, peuvent nous donner un conseil, mais qui n'est pas inspiré de Dieu, qui est basé peut-être sur leur histoire, sur leur peur, ce qu'ils ont vécu. Donc il faut avoir le discernement. Et ce discernement des esprits vient de la connaissance de la parole de Dieu. Quand on connaît la parole de Dieu, quand on va recevoir une prophétie, on sait que ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu. Et là, un exemple que j'aime beaucoup, c'est l'exemple de Pierre et Jésus. On trouve dans Matthieu chapitre 16. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrière, Satan, quand tu as un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Quand on voit ça, on se dit, quand on lit ce qui s'est passé avant, Pierre venait d'avoir une révélation qui venait de Dieu, que Jésus était le Fils de Dieu. Et là, Jésus avait discerné, il a dit, « Pierre, tu es heureux, parce que ce que tu viens de découvrir, c'est Dieu qui te l'a révélé. » Et juste après, quelques versets plus tard, Pierre dit quelque chose et Dieu dit, « Tes pensées ne sont pas mes pensées. » Pourquoi? Parce que Jésus avait le discernement des esprits. Amen. Ça veut dire que même les gens qui vous aiment, les gens qui veulent du bien, des fois, ils peuvent vous donner des conseils qui ne viennent pas de Dieu. Ça ne veut pas dire que les gens ils sont mauvais ou qu'ils ont forcément des mauvaises intentions. Il faut juste discerner, est-ce que ça vient de Dieu? Parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, dans le même chapitre, il y a peut-être dans 20 versets différents, Pierre a eu la révélation qui vient du Saint-Esprit et Pierre a pu donner un conseil qui ne venait pas du Saint-Esprit. Et Jésus a eu le discernement de faire la différence. Amen. Amen. Donc, je pense que si on est revêtu de Christ, on a aussi la capacité de discerner qu'à tel moment, tel conseil ou telle prophétie vient de Dieu ou ne vient pas de Dieu. Amen. Et ça, pour l'avoir, il faut vraiment connaître, il faut avoir une relation intime avec Dieu. Parce que si Jésus-Christ ne connaissait pas pourquoi Jésus-Christ était venu pour mourir, et Pierre lui disait qu'il n'allait pas mourir, donc il y avait un problème. Donc si on ne connaît pas la volonté de Dieu, si on ne connaît pas ce que Dieu nous demande, des fois on pourra prendre des prophéties qui ne viennent pas de Dieu et passer à côté de ce que Dieu veut pour nous. Amen. Et là, j'aime bien Néhémie aussi, l'exemple de Néhémie. Néhémie chapitre 6, si vous voulez lire aussi. Prenez plaisir à lire tous les livres de Néhémie. J'ai discerné par là que ce n'était pas Dieu qui l'avait envoyé, mais qu'il prononçait une prophétie sur moi parce que Sambla et Tobija l'avaient soudoyé. Là, si vous lisez le contexte, c'est que Néhémie, il avait commencé à reconstruire les murs de Jérusalem. Et là, il y avait des gens qui étaient jaloux. Ils ne voulaient pas que les travaux continuent, en fait. Du coup, ils ont essayé de lui tendre des pièges plusieurs fois. Et Néhémie refusait. Et là, Néhémie, il va chez quelqu'un, chez Maéja, je pense. Je pense que c'est quelqu'un qu'il devrait connaître, en fait. Parce que des fois, l'ennemi peut utiliser les gens qu'on connaît. Donc, il va chez lui. Et chez Maéja, en fait, il lui dit, « Ah, Néhémie, les gens veulent te tuer. Viens, on va dans la maison de l'Éternel se cacher et on va entrer dans les sanctuaires. » Et là, quand il a dit ça, ça fait tilt dans la tête de Néhémie. Parce que Dieu avait dit qu'il y a que les gens, les Lévites, qui avaient droit d'entrer dans la maison de Dieu et d'entrer dans les sanctuaires. Et là, Shemaïja lui dit, ah oui, Dieu, enfin, il dit, viens, on va se cacher dans les sanctuaires. Et là, comme il connaissait la parole de Dieu, il a tout de suite discerné que ça ne venait pas de Dieu. Mais si Néhémie ne connaissait pas la parole de Dieu, si Néhémie n'avait pas compris qu'il y avait que les Lévites qui avaient droit d'entrer dans les sanctuaires, il allait tomber dans les pièges. Amen. Donc on a besoin, si on veut avoir du discernement, on a besoin de connaître la parole. Surtout pour discerner les prophéties qui ne viennent pas de Dieu. Parce que je pense que Dieu ne va pas te donner une prophétie qui est contraire à sa parole écrite. Si Dieu a dit une chose dans la parole, la prophétie va venir peut-être pour confirmer ça. Mais je ne pense pas qu'il va venir te dire « fais ça » alors que dans sa parole c'est dit « il ne faut pas faire ça ». Donc si on veut discerner les prophéties, c'est Pierre qui dit ça, il faut éprouver les prophéties pour savoir si ça vient de Dieu ou pas. Et pour le faire, il faut connaître la parole de Dieu. Amen. Donc là, les conseils. Donc on a vu l'esprit de discernement des temps, des circonstances. On a vu les discernements de la bonne part, les discernements des esprits. Dans les discernements, c'est que des fois, on a beaucoup de choses à faire, on a deux choix à faire, on ne sait pas. On ne sait pas lequel choisir, en fait. Et là, Dieu va nous donner le discernement pour dire, voilà, tu dois faire ça ou tu dois faire l'autre. Et là, on a l'esprit des conseils. Jésus, on l'appelait le merveilleux conseiller. C'est dans Ésaïe chapitre 9, verset 5. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. Jésus, c'est le merveilleux conseiller. Donc, si on a besoin de conseils, la première personne à qui on devrait demander conseil, c'est Jésus, parce qu'on l'appelle le merveilleux conseiller. La Bible dit qu'il distribue des merveilleux conseils et il augmente nos capacités de discernement. Ça, c'est Jésus-Christ, le merveilleux conseiller, celui qui augmente nos capacités de discernement. Là, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Je pense que c'est un pasteur que j'avais entendu. Il avait dit, il faut réfléchir avant d'agir et il faut prier avant de réfléchir. Il faut réfléchir avant d'agir et il faut prier avant de réfléchir. Ça, c'est dit tout, en fait. Parce que des fois, on fait le contraire. On va agir, après on va réfléchir. Ça ne marche pas, on va prier. Donc, ce n'est pas dans cet ordre. Avant d'agir, il faut réfléchir. Et avant même de réfléchir, il faut prier d'abord. Amen. Et là, on voit quelque chose qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Et les hommes d'Israël acceptèrent les provisions des Gabaonites et ne consultèrent pas l'Éternel. Alors, dans ce contexte-là de Josué, on dit que les hommes d'Israël n'ont pas consulté l'Éternel. Je pense que beaucoup de fois, nous, on peut écrire ce verset sur nos vies, en fait. Parce que des fois, on fait des choses sans consulter l'Éternel. Et quand ça marche, quand ça marche pas, on va prier après. Et là, ce qui s'est passé avec les Gabaonites, les peuples d'Israël, c'est que là, c'était la période de conquête. Je vous invite à lire ça aussi. Ça fait beaucoup de lectures. C'était la période de conquête. Ils ont vaincu Jéricho, ils ont vaincu Haï. Donc, ils ont remporté des grandes victoires. Et là, tout le monde, tous les autres peuples, ils avaient peur. Et il y avait un peuple qui était très rusé. C'était les peuples des Gabaon. Ils ont dit, ah, les peuples d'Israël, là, ils vont peut-être venir nous attaquer. Parce que là, c'était la période de conquête. Et là, ils ont mis en place une stratégie pour aller tromper les peuples d'Israël. Ils sont partis, ils sont déguisés. Ils ont dit qu'ils venaient d'une terre lointaine et qu'ils venaient pour être leurs serviteurs. Et là, ils sont venus avec du pain, enfin, beaucoup de provisions. Je vous invite vraiment à lire. Et là, Josué et les autres chefs, ils ont accepté les provisions sans consulter l'Éternel. Et c'est quelques jours après qu'ils se sont rendus compte que c'était les Gabonistes et leurs voisins. Et là, ils étaient obligés, en fait, de vivre avec eux toute leur vie parce qu'ils ont accepté sans consulter l'Éternel. Et ça nous parle beaucoup dans nos vies. Des fois, on accepte des choses sans consulter l'Éternel. Et des fois, on doit vivre avec les conséquences toute notre vie parce qu'on n'a pas consulté l'Éternel. Quand on voit l'histoire de la conquête, beaucoup de victoires étaient conduites par Dieu. Beaucoup de victoires étaient conduites. Mais là, je me dis peut-être qu'ils étaient dans une période où tout allait bien. Ils venaient de remporter 2 victoires. Peut-être qu'ils se sont laissés aller un peu. Ça nous arrive aussi. Je vois beaucoup quand on traverse des moments difficiles, on va prier beaucoup, on va jeûner. Et quand tout va bien, on va baisser les bras. On ne va pas consulter l'Éternel. On va prendre des décisions sans prier. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la vie de ces hommes-là, mais ils ont pris une décision sans consulter l'Éternel. Ils ont dû vivre avec les conséquences. Et nous aussi, ça nous arrive de prendre des décisions sans consulter l'Éternel. Et les conséquences peuvent être graves. Là, je ne sais pas c'était quoi les conséquences. Je ne sais pas si c'était grave ou pas de vivre avec les Gabaonites. Mais nous, dans nos vies, si on prend des décisions sans consulter l'Éternel, ça peut être grave comme conséquence. Des fois, ça peut être des conséquences avec lesquelles on va vivre toute notre vie. Donc, il faut vraiment, avant d'agir, réfléchir. Et avant de réfléchir, il faut prier. Que ce soit pour des grandes décisions, que ce soit pour des petites décisions, que ce soit pour des choix très importants ou des choses moins importantes, on doit consulter l'Éternel. Que ce soit vraiment un mode de vie, consulter l'Éternel. Amen. Des fois, peut-être les gens qui se posent des questions par rapport à une carrière. Qu'est-ce que je dois faire dans ma carrière? Est-ce que je fais ça ou je fais l'autre? Ça peut être un choix de formation pour les étudiants. Est-ce que j'ai fait telle formation ou j'ai fait telle formation? Ça peut être le choix pour les conjoints. Ça peut être le choix pour beaucoup, beaucoup de choses. Donc, il faut vraiment consulter l'Éternel. Il faut consulter l'Éternel pour tout ce qu'on doit faire. Parce que Jésus-Christ, c'est le merveilleux conseiller. Si on se trouve face à 2 choix, j'aime bien ces promesses. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 21, tes oreilles entendront derrière toi, voici les chemins à prendre, marchez-y. Quand vous irez à droite, quand vous irez à gauche. Amen. Dieu a promis cette parole. Moi, j'aime bien souvent la proclamer. Je dis, Seigneur, tu as promis que si je me trouve devant 2 choix, j'entendrai derrière mes oreilles ta parole qui me guide. Peut-être aujourd'hui, il y a des gens qui se trouvent face à beaucoup de choix. Donc, on va prier pour que Dieu, pour que vous puissiez entendre cette parole de Dieu qui vous dise, voici les choix, voici l'option qu'il faut choisir, voici le conjoint qu'il te faut, voici la carrière qu'il te faut, voici ton appel dans l'église, voici ton ministère. Si vous vous retrouvez dans la situation où vous avez des choix à faire, moi, je vais vous inviter à la fin de venir ici, on va prier ensemble. Je ne dis pas on va prier pour vous, on va prier ensemble parce que moi aussi j'ai besoin que Dieu vienne m'éclairer dans certains domaines. Amen. Amen. Que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Si vous êtes venu ici, vous avez une situation où vous ne savez pas quoi faire, je vais faire un appel, venez, on va prier ensemble et on va proclamer cette parole, car Dieu a dit, tes oreilles entendront derrière toi, voici les chemins à prendre, marchez-y quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. Amen. Maintenant, j'ai mis la puissance en dernier. C'est vrai que quand on parle de l'Esprit de Dieu, des fois on voit seulement la puissance de Dieu guérir les maladies, parler en langue, les manifestations. Quand on parle de la puissance, des fois les gens ils veulent vraiment, quand on parle de l'Esprit de l'Éternel, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui veulent vraiment les spectaculaires, ce qui se voit. Mais L'esprit de Dieu, ce n'est pas seulement une puissance, c'est un esprit de connaissance de Dieu, c'est un esprit de crainte de l'Éternel, c'est un esprit de sagesse, c'est un esprit de discernement, c'est un esprit qui va nous conseiller dans tous nos choix. Amen. Quand on parle de la puissance de l'esprit de l'Éternel, on voit ça dans la Bible, dans toute la vie de Christ, en fait. On voyait qu'il avait la puissance pour guérir les maladies, pour chasser les démons, pour même, les gens, ils étaient étonnés parce que même le vent lui obéissait. Ça veut dire qu'il avait cet esprit de puissance. Et Dieu aussi nous a donné, si on est en Christ, si on a revêtu de Christ, Jésus même a dit, vous accomplirez un plus grand miracle que moi. Donc ça, c'est quelque chose aussi que Dieu nous a donné, cet esprit de puissance. Là, on voit que les hommes étaient étonnés par la puissance de Jésus-Christ parce qu'il pouvait guérir les maladies, ressusciter les morts, calmer la mer. Et ça, c'est un esprit de puissance que Dieu nous a donné. Amen. Mais ce n'est pas quand on regarde dans le texte. La puissance, le mot qu'il utilisait, donc, ça veut dire aussi les actions puissantes de Dieu, mais ça parle aussi du courage, de la force, de la bravoure, en fait. Et là, il y a un exemple de gens qui étaient courageux dans la Bible, qui ont aussi un esprit de courage. La première personne à qui je pense, c'est Caleb. Pas parce que c'est mon fils, mais ça n'a rien à voir. C'est juste que dans la Bible, il y avait Caleb, il y avait le courage, un esprit de courage. En fait, un esprit de courage qui vient de Dieu, ce n'est pas un esprit, genre quelqu'un qui va faire tout et n'importe quoi. Ce n'est pas quelqu'un qui va s'avancer dans toutes les guerres, en fait. C'est quelqu'un qui va dire, « Ok, Seigneur, je dois faire ça. » C'est vrai que ça me fait peur, mais sur ta parole, je vais marcher. Amen. Le courage qui vient de Dieu, ce n'est pas avoir peur. Tu peux avoir peur, mais tu dis, Seigneur, j'ai peur. Mais parce que tu as dit que toute terre où mon pied va toucher, tu me la donneras, je vais y aller. Amen. Ça, c'était le courage qu'il avait Caleb. Parce que si vous connaissez un peu l'histoire, si vous ne connaissez pas, je vous invite à lire. En fait, Caleb, Moïse a envoyé des espions pour aller espionner la terre des Canaans. Et ils étaient 12, donc un espion par tribu. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils ont vu la terre. Ils ont vu qu'il y avait des gens, des géants. Mais je pense que physiquement, c'était vraiment des géants. Et quand ils sont arrivés pour donner les rapports, il y avait les 10. Ils ont dit, c'est des géants. Si on va là-bas, ils vont nous écraser. Sauf Caleb et Josué, ils ont dit, Caleb il a dit, c'est vrai. Enfin là, je paraphrase, c'est vrai, c'est des géants. Caleb n'a pas renié que c'était des géants. Quand, être courageux, ce n'est pas de renier la vérité. Être courageux, ce n'est pas dire « Non, ça, c'est un petit problème. » Non, il n'a pas renié. Il a dit « C'est vraiment des géants. Mais si l'Éternel est avec nous, nous les vaincrons. » Amen. Être courageux, ce n'est pas dire « Ah, je ne suis pas malade. » Non, tu es malade, mais Dieu a dit que par la maîtrisseur de Christ, tu es guéri. Il ne faut pas renier. Là, Caleb n'a pas renié. Il a dit « C'est vrai que c'est des géants. Leurs villes sont fortifiées. » Mais Caleb s'est basé sur la parole de Dieu. Parce que Dieu avait promis qu'il leur donnera cette terre en héritage. Donc, se baser sur cette parole pour aller conquérir ce qui était à lui. Amen. Amen. Si l'Éternel est avec moi, je les chasserai comme il l'a dit. Amen. Une autre personne que j'aime beaucoup avec son courage, c'est Jonathan. Dans 1 Samuel chapitre 14, verset 6, on lit « En effet, rien ne peut empêcher l'Éternel de sauver, que ce soit au moyen d'un petit ou des grands nombres. » Ah, j'aime bien ça. Parce que là, on voit, quand on regarde le contexte, c'était Jonathan. Israël était en guerre contre les Philistins. Et à un moment donné, Jonathan se trouve seul avec son porteur d'armes. Il y avait des Philistins en face. Mais Jonathan, il a dit, on va les attaquer parce que rien n'empêche Dieu de nous donner la victoire, que ce soit, qu'on soit beaucoup ou peu. Parce qu'il savait que la victoire ne dépendait pas des nombres d'armée, en fait. La victoire dépend de Dieu seulement. Amen. Donc, si Dieu vous appelle à faire quelque chose, il ne faut pas vous dire, ah, je ne suis pas assez qualifié, je n'ai pas tel diplôme, je ne viens pas de telle nation, je n'ai pas telle chose. Non, si Dieu est avec toi, rien ne lui empêche de te donner la victoire. Et là, il avait le courage parce qu'il connaissait son Dieu. Il savait que Dieu n'avait pas besoin d'un grand nombre d'armées pour vaincre. Donc là, il a eu le courage. Quand on voit la suite, on voit que Jonathan, lui et son porteur d'armes, ils ont pu vaincre toute une armée. Pourquoi? Parce qu'il a eu le courage, et ce n'est pas un courage, ce n'est pas une folie, parce qu'il savait qui était son Dieu, il savait que son Dieu était capable de le sauver. Amen. Là, on peut avoir beaucoup, beaucoup d'exemples, mais on ne va pas les voir. Juste vite, un exemple, c'est David aussi. C'était vraiment, j'aime bien l'exemple de David face à Goliath. On connaissait tous l'histoire. David, il arrive, il dit à Goliath, tu m'attaques avec ta lance et ton épée, mais moi, je t'attaque au nom de l'Éternel. Et là, David, il commence à se souvenir de ce que Dieu avait accompli dans sa vie. Le courage, ça veut dire que des fois, tu te retrouves face à une situation, mais tu te rappelles que Dieu t'a déjà délivré d'une autre situation. Et là, ton témoignage va t'aider à être courageux. Et là, David, il dit, quand j'étais avec mes moutons, quand les lions m'attaquaient, l'Éternel m'a délivré. Quand l'ours venait, c'est pas c'est l'ours qui venait attaquer aussi, l'Éternel m'a délivré. Donc David s'est basé sur son passé, il s'est basé sur ce que Dieu avait fait pour avancer avec courage. Vous savez que nos expériences que Dieu a faites pour nous, ça doit nous servir en fait de base pour être courageux. Amen. Là, on a fait le tour, c'est vrai que ça fait beaucoup de choses, mais je vous invite vraiment à regarder les références que je vous ai données, parce que la Bible dit que vraiment, si on est en Christ, nous sommes revêtus de Christ, et tout ce qui est en Christ, maintenant, il est en nous. Mais des fois, ça ne se manifeste pas. Des fois, on ne manifeste pas la sagesse. Des fois, on manque de discernement. Des fois, on va faire des choses sans demander les conseils à Dieu. Des fois, on oublie que Dieu nous a donné la puissance. Quand on est malade, on dit, ah, je vais aller à l'église, je vais demander au pasteur ou à tel frère de prier pour moi, alors que Dieu nous a donné aussi la capacité de prier. Des fois, on manque de courage, on a peur parce que, voilà, mais Dieu nous donne aussi un esprit de courage. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, de courage, un esprit d'amour. Amen. Et un esprit de connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, ça, c'est vraiment la base. Connaître Dieu. La connaissance de sa volonté, la connaissance de sa parole. Et ça, pour avoir cette connaissance, il faut vraiment passer beaucoup de temps dans la parole, dans la parole, dans la méditation, dans la prière. L'esprit de crainte de l'Éternel. Quand on connaît Dieu, on aura la crainte de son nom. Et Dieu, quand on décide de lui obéir, quand on décide vraiment de se soumettre à sa volonté, Dieu aussi va nous honorer. Je demande à l'équipe de louanges de venir. Et là, c'est comme je disais au début, je sais qu'il y a beaucoup de gens parmi nous qui sont face à des décisions à prendre, des choix à faire. Et ce matin, vraiment, je veux prier. Je vais vous demander tout à l'heure si vous êtes dans cette situation où vous avez des décisions à prendre, des choix à faire, mais que vous ne savez pas quoi faire, quoi choisir. Vraiment, on va prier ensemble pour que Dieu nous donne le discernement. On va prier aussi pour notre Église, notre Assemblée, pour que Dieu vraiment suscite des hommes et des femmes qui ont un esprit de discernement, pour qu'on puisse discerner qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse dans telle période, face à telle situation, qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse. Et je pense que si vraiment on a reçu Christ, si on est baptisé en Christ, nous avons aussi l'Esprit de l'Éternel et avec nous. Mais j'ai une bonne nouvelle aussi pour peut-être les gens qui sont là. La première. Est-ce que tu peux remettre, s'il te plaît, là? Tu peux remettre les diapos, s'il te plaît? C'est une bonne nouvelle aussi pour les gens, parce que là, on a vu que ceux qui sont baptisés en Christ, ils ont revêtu de Christ, donc ils ont cet esprit de l'Éternel avec eux. Mais les gens qui ne sont pas encore en Christ, je vous invite aussi ce matin à prendre une bonne décision, la meilleure décision de votre vie. C'est vrai que cet esprit de l'Éternel est disponible aussi pour vous. Si vous êtes là, peut-être la première fois, vous venez de temps en temps, mais vous n'avez pas encore pris cette décision. Sachez que Dieu vous aime. C'est vrai que c'est un verset qu'on entend souvent, mais il faut l'expérimenter, il faut le vivre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans ce verset, vous pouvez remplacer le monde par votre prénom. Vous pouvez vous approprier ce verset et dire, Dieu m'a tant aimé qu'il a envoyé son Fils unique afin que, si je crois, je ne périsse pas, mais que j'ai la vie éternelle. Et aujourd'hui, vous pouvez dire, oui, Seigneur, je crois et je vais avoir cette vie éternelle. Alléluia, que personne ce matin ne se prive de sa grâce. Là, on est vers la fin de l'année, des gens font des résolutions, ils examinent leur vie. La meilleure chose que vous pouvez faire aujourd'hui pour vous, c'est d'accepter Jésus-Christ dans votre vie. C'est dire, oui, Seigneur, je veux avoir la vie éternelle. Je veux vraiment être, que tu viennes me revêtir aussi. Je veux que ton esprit repose sur moi parce que j'ai besoin aussi d'esprit, de sagesse, discernement, puissance, crainte de l'éternel. Peut-être que vous dites, non, moi, je ne peux pas parce que j'ai trop péché. Non. La Bible dit, vous qui êtes morts en raison de vos fautes, de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il a annulé en accroix à la croix. Amen. Ça veut dire que Dieu vous a déjà pardonné à la croix. Jésus a déjà pris l'acte qui nous condamnait. Si vous acceptez ça, si vous voulez vraiment prendre cette décision, c'est la meilleure décision de votre vie que vous pouvez prendre. C'est le meilleur cadeau que vous pouvez vous offrir en fin d'année. Et c'est le meilleur cadeau que vous pouvez offrir à votre famille. Parce qu'une vie en Christ, c'est une vie transformée. Et on va prier vraiment ce matin que vraiment les gens qui veulent prendre cette décision puissent vraiment faire le pas. Et on va prier aussi pour tous ceux qui veulent vraiment que l'Esprit de Dieu puisse se manifester. Ceux qui doivent prendre des décisions, que ce soit des grandes ou petites, ceux qui se trouvent sous les pièges de l'ennemi, ils sont tombés, l'ennemi vient encore. On va prier pour que vraiment Dieu vous donne la sagesse pour résister, pour que l'ennemi puisse fuir. Pour ceux qui sont, peut-être que vous avez pris des décisions sans consulter l'Éternel, il y a peut-être des conséquences, mais ce matin on peut prier parce que Dieu fait grâce. Si on lui demande, il peut nous faire grâce et faire en sorte que la prochaine fois, avant de prendre des décisions, on puisse le consulter. Il faut réfléchir avant d'agir et prier avant de réfléchir. Donc on va laisser l'équipe nous conduire dans la louange, le chant qui s'appelle « Prosterner ». Nous confessons que tu es Dieu. Donc je crois que Dieu est là ce matin. Et si vraiment, si vous vous retrouvez dans cette telle ou telle situation que vous voulez que compris ensemble, je vous invite à venir devant. Les responsables de l'Église vont prier pour vous. Amen.